Écoutez bien, voici l'histoire de l'établi de l'éducation artistique et culturelle. L'établi dans un atelier, c'est une table sur laquelle on dispose, où on fixe, la pièce à travailler. L'établi de l'éducation artistique et culturelle, c'est une série de kits mis à disposition de toutes et tous, dont l'objectif est de se saisir facilement des outils qui permettent à toutes et tous une rencontre, une pratique et une connaissance des arts et de la culture. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Chaque kit est composé d'un mode d'emploi sous forme de podcast à écouter, en fermant les yeux, de ressources, d'un outil pratique à destination des enseignants, des partenaires artistiques et culturels. Les kits ne seront pas des pièces terminées, ils sont des suggestions. Ils ont vocation à s'enrichir de vos contributions. Piochez-y, baladez-vous, arpentez et laissez-vous guider par notre mascotte, Kit. L'établi de l'EAC, c'est également un lieu de formation et de recherche, l'INSEAC. Un lieu physique et à distance dans lequel vous pourrez vous former, produire des ressources et contribuer au Living Lab de l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle pour atteindre ensemble le 100% EAC.
Posons ensemble sur l'établi le patrimoine de proximité. Et pour l'appréhender, un outil extraordinaire, les plans cavaliers produits par l'Association des petites cités de caractère de France. Ces plans cavaliers, on les trouve beaucoup dans les couloirs des mairies, souvent utilisés à des fins touristiques, mais très peu encore, je crois, dans les salles de classe. Je suis Emmanuel Lahotte, je suis professeur agrégé d'histoire-géographie à l'INSEAC. Et je vous propose d'aller à la découverte de ces plans et d'aller surtout à la rencontre de toutes les personnes capables de nous guider, de nous aider à comprendre ces vues cavalières, ces perspectives du XIVe siècle à nos jours, de leurs usages du passé à des usages très contemporains. Vues, perspectives, plans, on a vraiment besoin d'un retour en arrière. Commençons donc par donner la parole à Sonia Brunel, conférencière à la Réunion des musées nationaux Grand Palais.
La perspective, à l'origine, c'est une invention italienne au XVe siècle à Florence. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une modélisation du monde que le peintre va représenter, et c'est représenter la profondeur dans un plan. C'est pas simplement une approche théorique, mathématique, c'est vraiment un regard qu'on porte sur le monde. Donc, les choses n'arrivent pas par hasard. Si elles arrivent au XVe siècle, c'est pas par hasard. C'est la perspective, un mode de projection qui contient donc trois éléments, l'œil, qui est le centre de la projection, l'objet à représenter et le plan de la projection. Et Erwin Panofsky, qui était le grand historien de l'art allemand, a écrit ceci: c'est la science qui apprend à représenter les objets tridimensionnels sur une surface bidimensionnelle, de façon que l'image perspective coïncide avec celle que fournit la vision directe. Il faut comprendre que ça a été une révolution, cette invention. C'est le regard de l'homme. Et c'est pas rien, parce que avant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait le fond d'or pour les peintures religieuses. Et donc, ce fond d'or, c'était symbolique, c'était la lumière de Dieu. Bon. Donc là, avec la perspective, le fond d'or va progressivement disparaître. Et c'est vraiment, tout est conçu à partir de l'homme. Donc, c'est quand on parle d'humanisme, ça a eu des implications, bien sûr, dans la représentation de l'espace. Au-delà de la théorie mathématique et la géométrie, c'est le reflet de comment on voit le monde. C'est donc, philosophique, théologique, il y a tout un ensemble. Et d'ailleurs, quand on regarde l'Occident et puis l'Asie, ce n'est pas du tout la même façon de représenter le monde. Donc, c'est culturel. Et puis, donc, cette invention, pratiquement, qu'est-ce qu'elle va avoir comme répercussion pour l'artiste ? Et c'est essentiel, parce que ce n'est plus un artisan, mais c'est un artiste qui maîtrise un savoir scientifique. Ça, c'est une bascule capitale. Et c'est un combat aussi pour ces artistes de maîtriser cette perspective, cette science, parce qu'ils vont dire, nous, on maîtrise ce savoir-là et on n'est plus dans les arts mécaniques. On est dans les arts libéraux, c'est-à-dire les arts de la pensée. Donc ça a été quand même un grand changement, hein, capital.
Une vue cavalière, donc c'est une vue de hauteur du territoire.
Claire Lucas, responsable de l'association des petites cités de caractère de Bretagne, des villes d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne.
En un regard, en fait, on arrive à percevoir l'ensemble de la cité. Aujourd'hui, souvent, les gens sont perdus avec des plans, ont du mal à se repérer. Là, finalement, les élévations en façade des édifices permettaient une bonne compréhension, en fait, de la commune. Et puis permettait aux habitants de se resituer. Et on se dit, si les habitants se resituent, il se peut que les visiteurs, ce soit un bel outil pour les guider aussi dans la découverte.
Les plans en 2D sont souvent relativement austères et tout le monde a du mal à rentrer dedans.
Laurent Mazurier, directeur des petites cités de caractère de France.
Et après, alors ça c'est presque un choix de réseau, nous on a presque un parti pris de dire... On va vous raconter une histoire de cité, on va vous raconter une histoire d'architecture, on va vous raconter une histoire avec des gens qui habitent et qui ici ont leur propre patrimoine. Prenez le temps de découvrir, prenez le temps de voir, prenez le temps d'entendre. On a presque envie que la découverte se fasse sans support numérique. Ne passez pas par le biais d'un filtre ou d'un écran, regardez, sentez, vivez les choses. Quelque part, le plan cavalier et tous ces travaux de Damien Cabiron sont une façon de faire aussi le lien et d'avoir un passeur, justement, entre le visiteur et le patrimoine de la cité à travers un outil qui, effectivement, permet d'appréhender l'ensemble de la cité dans un premier regard, mais également ensuite de se repérer, voire d'aller chercher des coins, des ruelles, des placettes. Donc ça nous semble un très, très bon filtre, un très bon passeur entre la cité et le visiteur.
C'est le regard d'un artiste aujourd'hui sur nos cités aussi.
Artiste et architecte.
Et architecte.
En fait, il y a plusieurs pièces au début. Il y a le cadastre, il y a nos photos qu'on fait sur place. Et puis après, il y a effectivement la carte IGN qui est super, c'est la photo satellite. Donc là, on a toutes les toitures. La plan cavalier, c'est un mélange de... C'est même la définition, hein, c'est un mélange du plan, de la façade, de la coupe même, des fois. Enfin, c'est une synthèse de différentes vues.
Damien Cabiron, artiste et architecte de formation.
C'est vraiment une vue de l'esprit dans le sens où, par exemple, quand on apprend à l'école que deux parallèles se croisent à l'infini, c'est en perspective naturelle. Si on a un horizon ici, avec le ciel là et puis la terre là, on sait que deux parallèles vont se couper à l'infini, c'est-à-dire sur cette ligne d'horizon qui représente l'infini. Et ce qu'on appelle le point de fuite. Si, par contre, on place l'œil à l'infini, eh bien, deux parallèles ne vont jamais se couper parce que l'infini, il est tout le temps repoussé. Il est repoussé à l'infini aussi. Quand on construit, c'est de la géométrie. Mais on triche tout le temps. Si c'est un toit de pente, on coupe en deux, on met la hauteur du toit et on obtient notre toiture qui est là. Il faut quand même montrer l'importance de la pente, parce qu'une pente, là, elle est vraiment douce, alors que ça, c'est beaucoup plus aigu. Donc, on va peut-être tricher sur le milieu. C'est-à-dire que le milieu, au lieu de le mettre au milieu, on va le mettre là. Ce qui fait qu'on a... On a... Alors, après, quand on reconstruit, on se dit, Cabiron, il s'est trompé, c'est pas tout à fait ça. Mais néanmoins, moi, je pense que c'est plus vrai que la vraie construction, parce que ça montre plus la chose telle qu'on l'aperçoit.
La plupart du temps, les gens disent vue cavalière pour dire vue actionniste. Et que la vue cavalière, c'est encore une fois, c'est pas la même chose. Ça ressemble, mais c'est une vue dans laquelle, quand on parle de ville, en tout cas, dans laquelle le plan reste plan, c'est-à-dire avec des angles qui ne sont pas déformés. C'est toute la différence.
Colavienne, illustrateur et perspectiviste spécialisé dans l'urbanisme et l'architecture de paysage.
Le grand avantage de la cavalière par rapport à l'axonométrie, c'est que la cavalière permet de mesurer les angles avec tout simplement un rapporteur et ensuite de rapporter l'angle directement sur la pierre à découper, alors qu'avec une axonométrie, tout est en biais en fait. Et c'est toute la différence. Quand vous voyez une vue aérienne, c'est une axonométrie. les vues sur Google Earth, par exemple, c'est de l'axonométrie. C'est-à-dire, en fait, de la perspective où il n'y a plus de, où il y a plus de point de fuite, hein, où tout est parallèle. La perspective cavalière, c'est un cas particulier de ça, où il y a une déformation de la face principale pour qu'elle reste toujours frontale par rapport à vous. Souvent, les enfants ont tendance à dessiner en perspective cavalière. C'est-à-dire qu'on leur demande une maison, ils dessinent la façade, donc vraiment très frontale, mais vous voyez bien qu'une maison qui serait, par exemple, de forme parallépipède, si vous avez la maison en face de vous, si vous voyez la façade qui vous fait face, vous êtes d'accord que les côtés, vous ne pouvez pas les voir. Si vous voulez voir les côtés, il faut faire pivoter la maison sur elle-même. À partir du moment où elle pivote, bah, la face qui était devant vous, elle se déforme forcément. Hein, évidemment, puisqu'elle va commencer à diminuer, puisque vous allez révéler les faces qui sont sur les côtés. Donc, la cavalière, ça consiste à dire, non, je vais faire apparaître les faces qui sont sur les côtés, mais je garde ma façade de départ, je la garde en place. Donc, je la maintiens face à moi. Et les enfants vont dessiner comme ça. Ils dessinent la façade, voilà. Et puis ensuite, ils disent, ah ben mince, je voudrais le côté avec l'escalier. Donc, hop, ils partent en biais, et donc ils rabattent un peu les choses comme ça. Le principe de la cavalière, c'est un peu ça, finalement. Par exemple, sur Brest, j'ai eu toute la ville... Alors, je ne l'ai pas faite seule, attention, je ne vais pas non plus m'attribuer. Et du coup, on m'avait demandé pour la revue Place Publique de faire des représentations. Alors, il fallait que je zoome un peu parce que c'était sur un quartier qui est les Capucins. J'ai fait, alors là, pour le coup, des vraies perspectives cavalières. Parce qu'on m'avait justement, on m'avait demandé un plan. Et j'avais dit, moi, je fais des axes. On m'a dit, non, il faudrait que ce soit un plan avec les côtés touches. J'ai dit, bon, ah, très bien, puisque c'est ça, je vais vous faire une cavalière. Comme ça, vous aurez et le plan et la 3D dans les trucs. Tac. Et c'est là que j'ai fait ces recherches techniques pour trouver comment déformer l'objet et arriver à une cavalière. J'ai bidouillé des choses pour faire une image, des images qui zoomaient comme ça. Enfin, d'abord le centre-ville avec Siam et tout, puis qui zoomaient la falaise, les Capucins, et puis vraiment ensuite qui rentraient dans les ateliers où là, il y a cette très belle médiathèque en bois, etc. Et donc ça, oui, on peut avoir différentes échelles.
Si on parle du plan cadastral, de la carte hygiène, vous pourriez dessiner sans venir ici ?
Non, parce que la carte hygiène, elle ne monte aucune façade.
Damien Cabiron.
C'est que le toit. C'est vraiment une satellite à l'aplomb. Quand on voit avec ses yeux, on voit mieux, parce qu'on voit tout de suite un bâtiment, ce qu'il est, ce qu'il représente, comment il est composé, sa situation. Comme je disais aussi, les pentes de terrain qui l'entourent, le jardin, s'il est en pente, s'il est machin. On sent tout de suite, alors que quand on n'y va pas, même si on regarde sur un truc Google Street qui existe, eh bien, il y a plein de choses qui vont passer... on ne peut pas le vivre pareil. On le vit pas, donc, ça ne rentre pas dans la mémoire.
Passer par Damien, qui est un artiste, qui est architecte de formation, ça nous permet aussi d'avoir un peu son regard sensible, en fait, sur la commune. C'est la façon, je pense, dont lui, il a vécu la ville, et ne serait-ce que par sa palette, la palette chromatique qu'il travaille après avec Anne Holmberg, l'angle qu'il va retenir pour présenter la commune. Dans certaines cités, effectivement, le patrimoine le plus monumental ne va pas être le patrimoine qu'on va chercher le plus à donner à voir. Ça, c'est vraiment le regard de Damien qui apporte un plus, je pense, à cette vue cavalière, qui s'inscrit pleinement dans la tradition de la réalisation des plans cavalières, comme on l'a vu depuis le 16e.
Damien Cabiron, quand il fait sa vue cavalière, il fait des photos. Il photographie bâtiment par bâtiment. Ensuite, il transcrit ce qu'il a photographié en peinture. Voilà. Donc là, effectivement, pour nous, on peut parfaitement zoomer sur une vue cavalière d'aujourd'hui et travailler sur la comparaison avec un moment précis. Alors, quand il y a des timbres, en plus, sur des cartes postales, on peut encore plus facilement dater, etc. C'est pour ça qu'on sait que nos vues, elles vont être utilisées de façon très, très diverse par les enseignants. On a des idées, nous, évidemment. On a plein de pistes en tête, mais on ne soupçonne pas ce qui va en être fait. La vue cavalière produite par les petites cités de caractère est une vue contemporaine. Elle fait un état des lieux, par le biais d'un travail d'artiste, sur un patrimoine en l'état aujourd'hui. On sait que pour comparer ce patrimoine en l'état aujourd'hui, on peut s'appuyer sur des documents patrimoniaux qui sont nombreux, qui peuvent être conséquents, mais qu'il faut pointer du doigt et mettre en relation avec cette vue cavalière. Être aux archives, c'est la possibilité de faire ce lien.
Vous êtes jamais venu en fait, hein. Bon, c'est ça.
Vincent Le Gall, chef du service public et territoire aux archives départementales des Côtes d'Armor.
Mon service, en fait, a la chance d'être très varié, puisqu'on s'intéresse à tous les publics qui viennent aux archives, que ce soit les chercheurs, les amateurs, mais aussi les scolaires de tout âge, en fait. Les archives, c'est un monde un peu particulier. Souvent, les gens connaissent un peu plus les bibliothèques. On a une recherche et du coup, on a une thématique et on a des mots-clés et on va consulter les ouvrages. Dans les archives, c'est un peu différent. Les documents viennent de différents producteurs et du coup il faut réussir en fait à retrouver l'information qui nous intéresse. Et donc le rôle du président de salle, effectivement, c'est d'accueillir le chercheur, de lui expliquer comment on fonctionne et puis surtout d'écouter sa problématique pour l'orienter du mieux possible dans la jungle des documents d'archives qu'on conserve à travers les âges, en fait. Il y a une certaine austérité, en fait, hein, dans l'image des archives. Les gens pensent à des vieux documents poussiéreux, ouais. Enfin, des vieux archivistes poussiéreux eux-mêmes. Et c'est vrai que la réalité, c'est que les archives de base, ce sont des documents administratifs produits par la préfecture, le conseil départemental, etc. Donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu, justement, un peu austère. Mais en fait, là encore, tout dépend des questions qu'on pose aux documents. Et ensuite, quand on parvient à bien faire comprendre aux gens la grande diversité des documents qu'on peut conserver, voilà, je pense qu'ils comprennent, en fait, l'intérêt et la richesse, en fait, de venir dans les archives. Hein.
Donc là, par exemple, vous avez les publications de toutes les sociétés savantes, hein, notamment, hein, qui sont conservées ici. Par exemple, sur Guingamp, vous avez les Amis du patrimoine, qui est l'association un petit peu emblématique, hein, sur Guingamp. Voilà. Ils ont évidemment des petites revues, des éditions donc, qui sont conservées ici. Voilà. Et c'est le cas pour toutes les communes du département.
Et il y a un fantôme. Ah ouais, un fantôme qui est rentré sur Internet. Tout le monde savait qu'on l'avait. Hein.
Dès qu'on sort un document, dès qu'on sort une liasse d'un magasin d'archives, on doit laisser à la place de cette liasse un document qui indique où est le document. Donc par exemple, ce matin, moi j'ai sorti des liasses sur l'histoire de la prison. Donc j'ai mis à chaque fois un document. Et là, même une directrice, même Catherine Dolguin, doivent laisser
un fantôme. Nos collègues.
Donc ça je le pose là.
Ça s'appelle un fantôme. Oui. Voilà. Ça plaît beaucoup aux enfants. Mais ils sont très déçus quand ils voient le fantôme.
La première planche qui est entrée concerne deux représentations de Moncontour et du comté de Plouran, qui sont deux des quatre seigneuries du duché de Penthièvre.
Gladys Longeard, directrice des archives départementales et du patrimoine des Côtes d'Armor.
Pour regarder celle de Guingamp en particulier, donc on a dans un cadre rectangulaire tracé au moyen de dorures et orné de feuilles d'acanthe dans les angles, on a ces dessins à la plume, rehaussés de la vie, qui représentent Guingamp, donc avec un territoire en relief, sur lequel on voit à la fois le paysage et le bâti. On a notamment l'hôpital, on a la basilique Notre-Dame, on a un certain nombre d'églises et de chapelles, les moulins, les fourches patibulaires, tout ça représente la puissance seigneuriale. Donc, ces représentations étaient une façon d'honorer la puissance du comte de Toulouse, duc de Penthièvre. Le patrimoine, c'est un héritage commun que nous conservons, que des professionnels conservent, afin de le rendre accessible à tous, aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. Et ça, c'est un des credos des professionnels de la conservation du patrimoine. Les archives départementales sont intéressées traditionnellement par l'éducation artistique et culturelle, parce que nous savons depuis longtemps à quel point il est important que les élèves fréquentent les documents originaux, viennent sur place, se forgent une opinion en lisant des documents, exercent leur regard. Et c'est pourquoi nous proposons des ateliers que nous renouvelons et que nous faisons également circuler de façon à ce qu'ils touchent un plus large public.
Un élève de CM1 de l'âge de 9 ans qui m'a dit « Mais ça sert à quoi tout ça? Faut tout brûler. »
Catherine Dolguin, animatrice pédagogique et culturelle au service éducatif des archives départementales des Côtes d'Armor.
Et je suis restée sans voix et il m'a en fait beaucoup aidée. Sur le moment, j'étais trop estomaquée, donc je n'ai pas pu vraiment bien lui répondre. Mais après coup, j'ai revu ma présentation en présentant l'aspect probatoire preuve. Beaucoup plus, alors que j'avais, c'est pas que j'avais censuré, mais je le développais un petit peu moins en me disant c'est un peu compliqué.
C'est ça, faut toujours croiser les sources en fait, c'est une bonne leçon.
Mais de toute manière, moi j'aime bien quand il y a des questions, même si elles sont provocatrices, parce que elles amènent toujours à réfléchir. Ça veut dire qu'ils sont pas, comment dire, ça les questionne.
Le terme de patrimoine, il est maintenant bien connu. Le sens qui lui est donné est relativement récent, puisque très longtemps, le monument historique, c'était plutôt un témoin du passé national vers lequel on allait.
Marie Musset, inspectrice d'académie et inspectrice pédagogique dans l'Académie de Lyon.
Et la notion de patrimoine est différente, il y a toujours cette idée de transmission, mais c'est une rencontre entre un territoire et des individus qui se reconnaissent dans ce partage. L'histoire des arts fait partie de l'éducation à. L'idée, c'est effectivement de quitter un peu le monument pour aller vers des valeurs partagées qu'il faut identifier, dont il faut parler, au sujet desquels on peut débattre. Mais l'idée, c'est que c'est quelque chose qui est un patrimoine commun. Et un patrimoine, bien sûr, qui vient du passé, qui peut être ancré dans une histoire locale, qui ne concerne pas forcément tous les élèves, mais qui résonne chez chacun. Et c'est le principe de l'appropriation de l'œuvre d'art, qui est toujours une rencontre.
Bon, du coup, on va faire notre...
Allez, on va aller voir,
on a le droit, nous aussi.
Bah oui.
Donc, c'est bien une carte, ça s'appelle bien aussi.
Voilà.
La vue cavalière, c'est une pratique ancienne. Ici, elle est renouvelée par le trait. Je crois que c'était aussi au départ utilisé de façon militaire. Et là, c'est pour le plaisir des yeux, la paix, la beauté, le tourisme aussi. Et effectivement, avec des élèves, mais c'est une source inépuisable. Et pas uniquement parce qu'il y a des prolongements sans doute avec le numérique, avec les jeux vidéo. J'ai vu aussi que l'artiste avait quelquefois inséré des personnages qui surgissait de ce plan. Et donc, effectivement, des milliers d'histoires à inventer, à raconter, des promenades, des poursuites.
Alors moi, une des choses auxquelles j'ai pensé quand j'étais devant ce plan, j'ai pensé à un certain Ernest Renan, parce que quand on n'est pas très loin de Tréguier, et notamment à sa conférence en Sorbonne, le 11 mars 1882.
Qui portait sur...
Ah, ben, qu'est-ce qu'une nation? Une nation est une âme. Un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis.
Encore une fois, pour moi, c'est une sorte de matrice. Quoi.
Damien Cabiron.
Dont on doit s'emparer, et puis où ça nous vient avec, ou le modifier, ou le... Et je citais l'exemple de Dole, là, parce qu'il y a cet atelier du patrimoine, ils en ont fait un puzzle magnétique, qui est en grand, près de cette échelle-là, puis les gamins, ils s'amusent à composer la ville, en prenant, par exemple, la mairie, ils la mettent à la place dans l'eau,
le pont, ils le mettent à la place de la prison. Enfin, la seule chose qui compte, c'est que ces plans aient une vie. Voilà. Je voudrais tout, sauf qu'ils restent dans un tiroir, et puis... ce serait dommage.
Plan Cavalier et patrimoine de proximité. Un documentaire sonore de l'INSEAC. Merci à tous les intervenants dont les propos ont été recueillis par Emmanuel Lahotte et Raphaël Roth, avec à la technique Yannick Hervé, sur une musique originale de Malo. Direction scientifique et introduction par Emmanuel Etis, recteur de la région académique de Bretagne, vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers. Et maintenant que leurs propos sont sur l'établi, je vous propose d'explorer les ressources complémentaires de tous nos partenaires sur notre site internet. Expérimentez ces plans cavaliers et contribuez à enrichir l'éducation artistique et culturelle de nos élèves en vous appuyant sur notre patrimoine de proximité.